Observez le 84e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat du 24 au 26 septembre 2024 à Montpellier depuis le stand du gouvernement en partenariat avec Radio Territoria.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, 15h02 sur l'antenne de Radio Territoria et nous sommes toujours en direct de Montpellier depuis le 84e congrès HLM sur l'antenne de Radio Territoria et sur le stand du gouvernement avec une émission consacrée à un retour d'expérience de l'atelier des solutions mené dans le département du Gard pour relancer l'offre de logement social et pour nous partager les enjeux locaux, la méthode employée et aussi surtout les leviers identifiés. Eh bien, m'ont rejoint plusieurs personnes sur ce plateau que je m'empresse évidemment de vous présenter. Philippe Ribaud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de l'Association des maires de France du Gard et maire de Saint-Privat-des-Vieux. Bienvenue. Jérôme Durand, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la maîtrise d'ouvrage du bailleur social Un Toit pour Tous. Merci de nous avoir rejoints également. Sébastien Ferrat, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de la direction départementale des territoires et de la maire du Gard. Et également à nos côtés, David Delaboret, bonjour.
Bonjour.
Responsable de l'atelier des solutions sous direction territoriale et usagée à la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature pour le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Voilà, comme ça c'est parfaitement complet. Merci à tous d'être présents. Et puis si vous nous regardez en ce moment, je vous précise que vous pouvez également suivre cette émission bien évidemment en direct et donc réagir puisque c'est interactif en posant directement vos questions. Et nos invités ici présents y répondront tout à l'heure avec Hélène Parmentier. Bonjour.
Bonjour
Hélène, chargée de mission à la sous-direction territoriale et usagée au sein du ministère chargé du logement. Et cette première question, elle s'adresse à Sébastien Ferrat. Pourquoi faire appel finalement à l'atelier des solutions, un dispositif porté par le ministère ?
Alors tout d'abord, parce que dans le département du Gard, comme dans plusieurs départements de France, il y a une grosse tension sur la demande de logement. À l'échelle de l'agglo de Nîmes Métropole, c'est 10 demandes pour une attribution et à l'échelle du département du Gard, c'est 23 000 demandes pour 4 000 attributions par an. Donc on avait décidé avec le préfet de mettre en place un comité départemental de l'habitat et de l'hébergement, donc un CDHH, à l'issue duquel on voulait proposer quelque chose. On voulait partager avec tous les acteurs la difficulté de produire du logement, les difficultés liées à un certain nombre de facteurs qu'on va développer plus tard, mais surtout on voulait trouver une solution. Or nous, dans le département du Gard, déjà avec l'appui de la direction générale de l'aménagement et du logement de la nature du ministère, on avait un atelier de solutions sur les mesures environnementales. On s'est dit, c'est quelque chose qui est très utile, et donc on va mettre autour de la table des acteurs pour trouver des solutions. Et donc c'est pour ça qu'on a mis en place dans le département, avec l'appui du ministère, le premier atelier de solutions sur le thématique du logement, dans le Gard, mais aussi en France.
Et on y reviendra plus en détail. David Delaboret, est-ce que vous pouvez nous expliquer là comment ça s'est mis concrètement en place, l'atelier des solutions ?
Oui, écoutez, en deux mots, l'atelier des solutions, c'est la mise à disposition par le ministère d'équipes de facilitateurs, de designers des organisations, d'experts en sciences comportementales et qui sont en binôme avec d'autres experts, par exemple en habitat, en environnement, en tout cas sur les sujets qui sont portés par l'atelier des solutions. On fait émerger des solutions, mais ces solutions, grâce à ces facilitateurs, viennent des acteurs locaux eux-mêmes. Et c'est ça qui est intéressant, parce que l'idée, c'est vraiment qu'à partir de problématiques propres à chacun, on puisse mettre ensemble des acteurs qui ont des logiques différentes pour s'entendre, pour se connaître, pour travailler ensemble et pour définir ensemble les solutions qu'ils mettront en œuvre derrière l'atelier des solutions, qui est un dispositif qui dure jamais plus que 6 mois à 1 an. C'est un outil donc qui est à la main des services de l'État, un outil de la DGLN, et effectivement qui se déploie partout en France sur différents sujets, notamment des sujets propres à la DGALN autour de la qualité de l'eau, de l'environnement, des richesses environnementales, mais aussi de la planification et du logement.
Jérôme Durand, en quoi ce format d'atelier est propice pour construire des solutions pour les bailleurs ?
Pour nous, les bailleurs, notre position était importante d'être présent puisque construire et gérer des logements, c'est notre métier. Les besoins, monsieur le directeur de la DDTM l'a dit, les besoins sur le département du Gard sont excessivement importants. Nous, bailleurs, on a une position centrale par rapport à ça. On est à l'articulation des politiques de l'habitat, qu'elles soient nationales ou locales. Et donc, cette position centrale nous met en contact avec l'ensemble des différents intervenants qui viennent sur cette problématique de l'habitat et de la production du logement.
Avec des échanges qui ont été constructifs.
Oui, mais des échanges qui ont été très constructifs.
Sébastien Ferrat, comment s'est passée concrètement la démarche ?
Alors, initialement, il a fallu recenser un petit peu les principales problématiques. Donc, on a les deux bureaux d'études qui nous ont accompagnés, hein, l'un dans l'intelligence collective, l'autre dans le domaine de l'habitat. On procédait à une quinzaine d'interviews des acteurs du territoire, mais diversifiés, hein, bailleurs, entrepreneurs, élus, pour cerner les problématiques. Et puis, dans un deuxième temps, lors du séminaire de lancement, on était 90, on a reprécisé sur des tables des ateliers un petit peu individuels toutes les difficultés que les uns et les autres rencontraient. Et ensuite, on a conçu trois séquences d'ateliers. Donc on a à peu près réuni 200 personnes sur ces trois ateliers. On a d'abord partagé les enjeux sur les différents axes qu'on avait identifiés au préalable. Ensuite, commencé à esquisser des premières pistes de solutions à la fois au niveau local et à la fois au niveau national. Et la troisième atelier s'est consacré plus particulièrement à la définition des solutions locales. Puisqu'on a dit, on a un projet de loi logement qui est en cours, donc on fera remonter des suggestions pour le niveau national. Et à notre niveau, on a certainement des choses à faire entre nous et des pistes à améliorer au niveau local. Donc c'est trois étapes un petit peu. Et là, on est dans la phase, on va dire, terminale de rédaction du plan d'action, puisqu'on doit faire un séminaire de restitution en novembre.
Ok. Jérôme Durand, je me retourne à nouveau vers vous. En quoi la présence, même si la question peut paraître évidente, mais je vous la pose quand même, en quoi la présence d'un bailleur social était importante dans le cadre de cet atelier des solutions?
Ce que je vous disais tout à l'heure, effectivement, nous, on a une action, on est vraiment central par rapport à ça et à la production de logements. Donc on est à l'articulation de toutes ces composantes. Et c'était important pour nous de pouvoir être là, puisque justement on pouvait instaurer ce dialogue avec les différents acteurs qu'on côtoie au quotidien. Et pour une fois, ils étaient tous là, au même endroit, au même moment. Et donc c'était quelque chose qui était très intéressant.
Alors Sébastien Ferrat, vous nous parliez dans quelques instants d'une future restitution. Néanmoins, qu'est-ce qu'il en est ressorti concrètement de cette démarche? Qu'est-ce qu'on peut dire en fait?
Alors aujourd'hui, justement, comme le disait le collègue d'Intro pour tous, on a partagé un certain nombre de problèmes et on a essayé de trouver différentes pistes de solutions. Des pistes de solutions dans le domaine des attributions, pour améliorer la fluidité, la connaissance auprès des élus, des mécanismes d'attribution. Des problématiques de financement. On a aussi clarifié pour les uns et les autres, y compris des élus, toutes les possibilités qu'il y avait de financement, notamment les dépenses déductibles quand on est une commune soumise à l'article 55 de la loi SRU. On a aussi développé la réflexion mode projet, c'est-à-dire aujourd'hui, faire sortir un projet de logement locatif social, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on a des problèmes d'accès aux fonciers, parce qu'on a des problèmes de financement, des problèmes d'acceptabilité sociale, de contraintes techniques environnementales. Et donc, on s'est dit, il faut se mettre aussi en mode projet. Donc ça, c'est une des pistes locales. Et puis, je viens de le dire, il y a la problématique de la formation. De la formation de tous les acteurs. Parce que quand on est entre soi, ça semble simple et pourtant c'est compliqué. Mais il faut encore, aujourd'hui, pour que le développement du logement social se fasse de manière accélérée, il faut aussi qu'on communique, y compris avec les résidents et les citoyens de nos communes.
Alors, Philippe Ribaud, on le sait, il existe un certain nombre de leviers qui sont censés faciliter la production de logements sociaux. Quels sont, selon vous, les plus efficaces?
Alors, tout d'abord, je voudrais dire que les maires sont, et notamment les maires SRU, dites SRU, se retrouvent souvent en première ligne et un petit peu stigmatisés comme des mauvais élèves, puisque la loi existe depuis maintenant un certain nombre d'années.
25 ans.
Et que les objectifs sont elle était d'application ultérieure, mais effectivement elle date de 2000. Oui, c'est vrai. Les maires se retrouvent face à un certain nombre de difficultés. Ça a été cité, acceptabilité sociale bien entendu, mais ils ne tirent pas le frein à main. Ils se retrouvent face à des contraintes réglementaires, des contraintes financières, à des injonctions contradictoires qui consistent à la fois protéger le territoire par de multiples plans de prévention, PAC, etc. etc. Et puis, ils ont un certain nombre de leviers, mais ils ne les ont pas tous. Alors les leviers, bien entendu, ils ont l'urbanisme, soit en maîtrise communale, soit en maîtrise intercommunale. Mais personnellement, j'estime que un plan local d'urbanisme est la première des choses à mettre en place pour pouvoir espérer réaliser du logement social, ce n'est pas une condition suffisante en soi. À travers un PLU, on peut instaurer un certain nombre de dispositifs qui permettent de faciliter la production. Mais au-delà de ça, écoutez, moi, sur ma commune et sur d'autres communes du Gard, il y a un certain nombre de projets qui sont bloqués à l'actuel parce que les bailleurs sociaux ont un certain nombre de difficultés financières pour faire émerger ces projets. Les leviers, alors j'en écarterai un, c'est celui du prélèvement qui est imposé aux communes, qui à mon sens n'est absolument pas un levier incitatif pour la réalisation du logement social. Il est plutôt stigmatisant, plutôt que, on le vit comme une pénalité, plutôt que comme un levier positif dans la réalisation. Ensuite, je pense qu'il faut s'entourer d'un certain nombre de compétences. Moi, je crois beaucoup au levier positif que constitue l'apport des établissements publics fonciers, notamment, et qui doivent nous permettre de nous accompagner, notamment dans la maîtrise foncière. C'est un des leviers que je mets en avant dans la poursuite de nos objectifs.
Et selon vous, finalement, quelles autres solutions pourraient être concrètement mises en œuvre ?
Eh bien, écoutez, l'atelier des solutions a fait émerger un certain nombre de fora, émerger un certain nombre de propositions. Moi, j'y vois déjà l'intérêt suivant, c'est qu'elle a permis de rapprocher les différents acteurs qui ne se parlaient pas forcément et qui ne se connaissaient pas forcément, même si, bien entendu, on travaille avec des bailleurs sociaux et avec les services de l'État, mais de manière assez ponctuelle et pas de manière organisée. Là, ça nous a permis de réfléchir ensemble et de peut-être de faire émerger un certain nombre de solutions. Alors, il n'y aura pas de solution miracle, bien entendu, mais par une meilleure connaissance des enjeux, des règles, et on peut se donner la possibilité d'aller plus vite et de mieux réussir les projets.
Aujourd'hui, les maires, ils s'inscrivent dans le respect de la loi ou pas ? Parce que la loi SRU, elle date de près de 25 ans.
Alors, mais j'ai commencé par ça.
Ben oui.
Donc, ce que je souhaite, c'est qu'on ne stigmatise pas les élus.
Ouais.
Hein ? Je vous ai cité un certain nombre de difficultés s'imposaient à eux. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous êtes commune SRU, vous avez une croissance très régulière de votre population. Vous n'atteindrez jamais l'objectif. Pourquoi ? Parce que l'objectif est recalculé chaque année en fonction du nombre de résidences principales. Voilà. Donc ça, ce n'est absolument pas incitatif. Si on pouvait décider tous ensemble de figer l'objectif, on se fixe un objectif de rattrapage, et puis après on verra. Mais c'est une course sans fin. Voilà. Pour certaines communes, je dis bien.
Jérôme Durand, finalement, qu'est-ce que vous en attendez, vous, de cet atelier ?
Alors nous, on était très heureux, un toit pour tous, de s'inscrire dans cet atelier. D'abord par rapport au point qui a été souligné, notamment par Monsieur le maire, c'est que la qualité des échanges qu'on a eus et l'impulsion et la dynamique qui a été portée par l'État sur cette thématique. Donc nous, ce qu'on souhaite d'abord, c'est qu'on puisse, justement, grâce aux échanges et aux compréhensions des problématiques des uns et des autres, ce qu'on a pu connaître lors de ces ateliers, c'est de mettre en œuvre un certain nombre de solutions localement pour justement nous caler par rapport aux objectifs et trouver les moyens et lever ces freins à la production de logements. Et après, au-delà, cette action qui a été menée au niveau du Gard, elle est censée remonter au niveau de l'État. Et on espère que justement l'État pourra nous entendre, nous bailleurs, sur un certain nombre de problématiques qui ne sont pas forcément nouvelles et qui nous accompagnent pour lever un certain nombre de freins dans cette production de logements dans un contexte qui est économique, qui est quand même somme toute assez tendu. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on a une trajectoire en matière de décarbonation de notre patrimoine et de notre activité qui est un enjeu majeur, qui va nécessiter des moyens. Et il faut qu'on puisse avoir les moyens, effectivement, de pouvoir construire et mener cette trajectoire environnementale.
Sébastien Ferrat, la question, elle est assez simple, mais maintenant, c'est quoi la suite, finalement, après l'atelier ?
Ben déjà, c'est de maintenir cette dynamique. C'est de maintenir cette dynamique qu'on a mise en place. Déjà, remercier ceux qui nous ont soutenus, hein, parce que c'est un projet qui ne s'accompagne pas sans les crédits du ministère et les crédits de l'Adréal, par une équipe projet, par une véritable bienveillance et un esprit de dialogue entre les différents acteurs. Donc les deux prochaines étapes majeures, c'est d'ici la fin de semaine, maintenant que nous avons une ministre du logement, le préfet va donc écrire à la ministre sur un certain nombre de propositions de logement dans le domaine du foncier, dans le domaine du financement, dans le domaine de SRU. Donc ça, c'est un courrier qui partira cette fin de semaine avant la clôture du congrès. Et le deuxième volet, c'est donc le séminaire de clôture le 7 novembre, au cours duquel on va définir en fonction des pistes d'action. Vous l'avez compris, comme le disait Jérôme Durand, l'initiative était à l'État. Mais les actions, elles appartiennent à tous. Donc on aura des responsables d'actions qui vont être issus donc, de tout ce collectif de travail pendant ces trois ateliers. Et donc on va construire un plan d'action, il va falloir continuer à le faire vivre. Et moi j'ai beaucoup d'espoir, en tous les cas la dynamique est enclenchée. On ne va pas tout solutionner, ce n'est pas une baguette magique, mais en tous les cas, on y croit tous.
Bon, en tout cas, merci à tous de vos interventions. Ne bougez surtout pas, parce que c'est la possibilité aussi de recevoir les questions des auditeurs qui nous écoutent en ce moment. Et Hélène, je me tourne vers vous. Justement, première question.
Oui, alors une première question qui s'adresse à Jérôme Durand. Localement, en tant que bailleur, quelle est la première action attendue pour relancer la production de logements sociaux ?
Alors nous, ce qu'on attend localement, c'est justement ce que j'évoquais tout à l'heure, de pouvoir dégager ces marges de manœuvre. On a un certain nombre. On a vu que le nombre de dépôts d'agréments ou d'opérations qui étaient lancées ou livrées ont connu une réduction par rapport à un contexte qui était spécifique. Hein. On a rencontré une forte hausse des coûts de production qui était en même temps avec des hausses de taux qui nous ont grippé un peu la machine. Donc, alors on est en dialogue avec les délégataires des aides à la paire, les représentants de l'État. Mais c'est vrai que, contrairement à ce que peuvent faire certains délégataires, la systématisation de l'actualisation des loyers à la mise en service nous permettrait de couvrir cette période et nous permet d'actualiser, alors que jusqu'à présent, il fallait avoir déposé cette convention APL pour pouvoir l'actualiser. Et c'est vrai qu'avec des opérations initiées 2021 qui vont faire face à ces difficultés, c'est quelque chose qui nous aiderait ponctuellement et très rapidement.
Hélène ?
Oui, une seconde question pour Philippe Ribaud. Au travers de l'Association des maires de France, vous accompagnez les élus du Gard. Est-ce que les maires sont suffisamment formés et outillés sur les sujets du logement et du logement social en l'occurrence?
Je crois qu'il faut toujours mieux, toujours plus poser le débat très souvent, comme ça se fait lors de l'atelier de solutions. Je crois que, comme le disait monsieur le directeur, la dynamique est enclenchée, il faudra la poursuivre, notamment à l'occasion des prochaines élections municipales, et peut-être recommencer un cycle de formation à ce sujet-là, même si les maires des communes carencées sont relativement bien formés, mais ce n'est jamais suffisant.
Autre question ?
Oui, peut-être pour Sébastien Ferrat, quel conseil donneriez-vous à un autre département, à un autre territoire qui voudrait se lancer dans une telle démarche ?
Alors déjà, il faut avoir ce binôme de bureau d'études conseil qui soit à la fois dans l'émergence de l'intelligence collective et quelqu'un qui connaisse quand même le domaine de l'habitat. Alors ça, c'est important, ça nous permet quand même de cadrer les choses. Et puis, il faut avoir à la fois un état d'esprit bienveillant. Je pense que ce qu'on a réussi à avoir, alors on ne le sait pas a priori, même si on a des échanges réguliers avec les différents acteurs, les élus, les bailleurs, les aménageurs, les financeurs. Et puis, il faut aussi avoir une équipe avec soi. Et cette équipe-là, à la fois, c'est un binôme qu'on a entre le ministère et puis nous, pour animer, parce que le bureau d'études, c'est bien, mais globalement, c'est quand même les acteurs locaux qui font avancer. Donc voilà, il faut y aller, il faut y croire, mais ça ne se fait pas tout seul. Il faut un peu d'énergie quand même. Hein. Voilà, on n'aurait pas réussi, je pense, sans l'énergie, sans le tandem qui s'est mis en place entre le ministère et puis les collègues du service Habitat chez nous.
Une dernière question ?
Oui, alors peut-être pour Jérôme Durand, puisque vous avez évoqué la décarbonation de votre activité, quels impacts concrets peut-être à nous partager sur la production de logements sociaux ?
Non, ils sont majeurs, c'est un peu technique, hein, mais c'est comme pour toute entreprise. Une entreprise elle peut investir sur certaines thématiques en fonction de sa capacité d'autofinancement, ce qu'elle est capable de dégager comme marge de manœuvre. Or aujourd'hui, on a de gros enjeux environnementaux. On doit travailler sur notre décarbonation de notre activité, sur le changement des vecteurs de chauffage. Et tout ça, ce sont des investissements qui sont lourds, les réhabilitations du patrimoine aussi, énergétique et qualitatif. Et donc, comme c'est important, ça limite aussi la capacité d'investissement sur la production du neuf. Donc il faut trouver cet équilibre qui, elle-même, est confrontée à l'évolution réglementaire qui s'accompagne avec cette stratégie et cette vision environnementale.
Encore une petite question pour la route.
Oui, pour David Labouré de l'Atelier des Solutions. Pour les territoires qui nous écoutent, comment on mobilise concrètement l'Atelier des Solutions quand on a un besoin ? Et puis, nous partager peut-être la garantie du succès si on va au bout de cette démarche.
Alors, solliciter un Atelier des Solutions, c'est assez simple. Quand on est une collectivité locale, un bailleur, une interco, Le premier réflexe, c'est de s'adresser aux services déconcentrés de l'État, au premier chef, la DDT, DDTM. C'est la DDT qui est pilote de cet atelier, qui demande un premier contact avec le ministère pour échanger sur les problématiques qui seraient susceptibles de faire l'objet d'un atelier. Donc, premier réflexe, adressez-vous à votre service déconcentré, et ce service déconcentré engage le dialogue avec nous. Quant à la deuxième question, alors la réponse est beaucoup plus complexe. D'abord, on n'a jamais la garantie qu'un atelier va bien se terminer, mais on constate que ça se termine toujours bien. Donc, quels sont les ingrédients pour aller vers quelque chose de positif? Ben, c'est déjà d'avoir des gens qui ont envie de s'engager, c'est-à-dire que avant que le ministère accepte un atelier des solutions, il faut qu'il y ait derrière des alliés locaux qui travaillent avec la DDTM pour que l'atelier se passe dans les meilleures conditions. La deuxième condition de succès, c'est créer un espace de dialogue. Et c'est vrai que c'est rare d'avoir des lieux où on se pose et où on engage une discussion au long cours sur quelques mois. Et puis enfin, le troisième élément qui est peut-être le plus important, c'est la parole libre, sans tabou. C'est-à-dire accepter la controverse, ne pas avoir peur d'être en contradiction. Et au contraire, s'il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de solution trouvée. C'est-à-dire que c'est par la contradiction mise sur la table de façon bienveillante qu'on arrive à trouver, bien sûr, les portes de sortie.
Merci beaucoup, David Laboret, d'avoir participé à cette émission. Merci également, Sébastien Ferrat. Je remercie Philippe Ribaud et Jérôme Durand, également, d'être venus sur ce plateau. Merci également à vous de votre fidélité. On a pu faire le point donc, sur l'atelier des solutions. Et on se retrouve tout à l'heure pour une dernière émission pour cette première journée sur le 84e congrès HLM en direct sur Radio Territoria depuis Montpellier. Merci à vous et à très vite.
Vivez le 84e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat du 24 au 26 septembre 2024 à Montpellier depuis le stand du gouvernement en partenariat avec Radio Territoria.